Bismillahirrahmanirrahim. Donc, pour en revenir au thème d'aujourd'hui, on avait commencé depuis il y a 2 semaines, on avait commencé à parler de la résurrection, bien sûr, mais du hisab, à partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala appellera chaque personne pour que chaque être humain rende compte de sa vie d'action bonne comme mauvaise. Mais il y avait un fait qu'on avait oublié d'expliquer, c'est-à-dire après le wukuf, hein, lors de la résurrection, lorsque les gens restent pendant près de 40 années debout, attendent quand Allah Ta'ala ordonne le début du hisab, alors à un moment donné, Allah Subhanahu wa Ta'ala présentera le feu de l'enfer aux gens. Et là, chaque personne verra le Jahannam. Chaque personne verra le feu de l'enfer. Que cette personne soit musulmane ou non. Même les Anbiya, alayhi salat wa salam, ils vont assister à ce spectacle. Maintenant, en fonction du iman, en fonction de la catégorie de la personne, il n'y aura pas le même angoisse, le même sentiment de crainte, mais chaque personne aura cette épreuve à subir le jour de Qiyamah, c'est de voir l'enfer, le Jahannam, se déchaîner par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah dit dans le Coran, وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ دَتْ وَيَسِي وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابِ. Donc ils vont voir réellement de leurs propres yeux ce feu et ce azab. Et donc, Allah ta'ala ordonnera qu'à partir du Jahannam, du feu de l'enfer, il y a l'expression en arabe, c'est unuq, unuqan min an-nar, c'est-à-dire c'est comme un coup, c'est comme une montée de feu qui sort du Jahannam et qui va se faufiler à travers le mahshar et qui s'approchera des kuffars mais restera éloigné des mu'minis. Ce feu s'approchera des kuffars. Le but c'est pas de brûler parce que l'adab n'a pas commencé, le but c'est d'effrayer ces kuffars. D'effrayer ces personnes qui n'avaient pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre, tandis que ce feu sera visible des mu'minines, des musulmans, sans les approcher. Mais le simple fait de l'équitable, c'est-à-dire le simple fait de voir ce feu de Jahannam, chaque personne éprouvera intérieurement en elle une crainte inexplicable. Parce que dans le hadith d'Ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala, yu'ta bi Jahannam yawma idin. Le jour de Qiyamah, l'enfer sera présenté. Et en ce jour, laha sab'una alfa zimam. Elle sera attachée par 70 000 chaînes, ma'a kulli zimamin sab'una alfa malak yajurunaha, avec chaque chaîne, 70 000 anges qui retiennent, mais en même temps qui tirent le Jahannam. Et lorsque les kuffars vont voir ce feu de Jahannam, évidemment, ils vont être horrifiés, idha ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha. Ils entendront le son, le bruit du Jahannam. Et ce sera une crainte. C'est inexplicable. On va voir cet hadith qui décrit. Et ensuite, il y aura donc ce feu qui sortira du Jahannam le jour de Qiyamah. Il y aura des yeux qui voient. وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ, des oreilles qui entendent, وَلِسَانٍ يَنْتِقُ وَيَقُولُ إِنِّي وُكِّلْتُ بِثَلَاثَ. Et donc ce feu aura la possibilité de la part d'Allah, le qudrat de la part d'Allah, de s'adresser aux gens qui seront là, et il dira que j'ai été envoyé pour 3 catégories de personnes, et parmi ces catégories de personnes, مَنْ دَعَى مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, donc celui qui faisait le shirk, qui invoquait d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et également les personnes جَبَّارٍ عَنِيدٍ, les gens qui faisaient preuve d'orgueil, qui étaient hautains sur ce dunya, dont leur cœur était rempli de kibre, d'orgueil. Et dans Musannaf d'Abdul Razak, il est dit, rapporté par Ma'mar, le hadith dit que inna jahannam, que l'enfer, il y a un terme, c'est le zafir du jahannam. Il n'y a pas de terme réel en français pour traduire, c'est entre un cri et un sifflement. C'est-à-dire, c'est un bruit qui est propre au jahannam, qui sera perceptible, audible, donc de la part de toutes les personnes, et tellement ce bruit fera peur, sera effrayant en plus de la vision de Jahannam, le hadith dit, « La yabqa malakun wa la nabi illa kharra » dit qu'il n'y aura pas un roi, ni même, il n'y aura pas un malak, il n'y aura pas un ange, ni même un prophète qui va voir et entendre cela, sans qu'il ne, il va s'accroupir. Dans d'autres riwayats, il dit que, voilà, il dit, hatta inna Ibrahima la yajthu ala rukbatayhi wa yaqulu rabbi la as'aluka illa nafsi. Même Ibrahim alayhi salam, il va s'accroupir, il va tomber sur ses genoux, il va demander, oh Allah, je te demande de me protéger, de me sauver moi-même. Je te demande ma propre protection moi-même. Taïb. Et dans cette date des rois, il dit que même Isa a.s. demandera à Allah de le protéger. Donc même les Anbiya alayhim salat wa salam seront effrayés par la vision du Jahannam. Donc comprenons bien la différence entre un kafir qui voit le Jahannam. Le kafir, il aura à voir le Jahannam, un feu qui s'approchera de lui. Tandis que le musulman, la seule difficulté sera de voir ce feu de l'enfer, mais ce feu ne l'atteindra pas, restera éloigné. Mais la simple vision effraiera même les Anbiya, alayhimu salatu wassalam. Et donc, après ça, lorsqu'Allah Ta'ala, on avait dit la semaine dernière, on avait introduit un peu ça, on avait dit que les gens seront donc ressuscités et ils n'auront aucun souvenir. Ça, on avait expliqué. Ils ne se souviendront plus de leurs actions, bonnes comme mauvaises, et Allah subhanahu wa ta'ala mettra une science, une connaissance de leur cœur, et ils se souviendront comme, yani, par magie, hein, c'est la qudrat d'Allah. En une fois, ils auront le souvenir entier de leur vie passée dans les actions bonnes comme mauvaises. Et autre étape également, après que les gens soient ressuscités et qu'ils aient connaissance intérieure donc de leurs actions, Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que les kuffars et les musulmans soient séparés. وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. Donc les pécheurs, les kuffars seront séparés, et dans certains livres il dit que les mu'minines, les musulmans seront séparés de ceux qui n'ont pas iman de leur cœur. Et même entre les adeptes de différents adhyans, de différentes religions, eux aussi seront entre eux. Ceux qui étaient adeptes de telle religion, ils seront ensemble. Ceux qui étaient adeptes de telle religion, ils seront ensemble. Et dans certaines versions, il est même précisé que parmi les musulmans maintenant, parmi les pécheurs, parmi les musulmans, hein, il y aura une distinction entre ceux qui se distinguaient par les mêmes péchés. Ceux qui se distinguaient par les mêmes péchés. Par exemple, ceux qui sur la terre, hein, ils étaient connus pour, je ne sais pas, par exemple, consommer de l'alcool, ou alors pour utiliser l'argent haram de leur transaction. Hein, il dit, ashab al-riba, par exemple, ashab al-riba, ceux qui consommaient l'intérêt. Ben, les gens qui se distinguaient par un péché précis, là aussi, ces gens-là seront ensemble le jour de Qiyamah. Ibn Kathir, rahimahullah, il rajoute quelque chose de fort intéressant. Ibn Kathir, rahimahullah, il dit que فإذا نصب كرسي فصل القضاء إن ماز الكافرون عن المؤمنين في الموقف إلى ناحية الشمال وبقي المؤمنون عن يمين العرض. Que les musulmans seront du côté droit à partir de l'endroit où sera fait le qada, la justice. Les musulmans seront à droite et ceux qui n'ont pas iman seront du côté gauche. Donc Ibn Kathir rahimahullah, il explique bien qu'il y aura une séparation claire entre ceux qui ont iman et ceux qui n'ont pas iman. Donc ça, c'est ce qu'on avait expliqué la dernière fois. Maintenant, une question qui a été posée. Donc, qui c'est qui va juger les gens? Est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui en personne jugera chaque personne? Alors, certains ulama sont d'avis que Allah subhanahu wa ta'ala jugera chaque personne, même ceux qui n'avaient pas iman. C'est-à-dire personnellement. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, inna ilayna iyabahum, thumma inna alayna hisabahum. Ce verset stipule bien que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fera le hisab, la justice, qui jugera donc ces personnes. Comme Allah dit dans le Coran également, fa innama alayka al-balagh. Allah a dit au Prophète que c'est à toi de faire la propagation, wa alayna al-hisab, et c'est à nous de faire le jugement. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Il y a pas mal de versets qui font comprendre que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui se charge de juger chaque personne, pardon, le jour de Qiyamah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également dans un hadith que laysa minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Il n'y aura pas une personne, et là le prophète dit laysa minkum min ahadin, sans préciser musulman ou non musulman, pécheur ou non pécheur, il n'y aura pas une personne qui ne sera pas présentée auprès d'Allah illa sayukallimuhu rabbuhu, et auquel Allah Ta'ala ne parlera pas. Donc chaque personne devra, Allah Ta'ala s'adressera à chaque personne le jour de Qiyamah, et notre prophète Sassam, il précise, laysa baynahu wa baynahu tarjuman. Il n'y aura pas de séparation, ni d'interprète, ni d'une personne qui va faire le relais, qui va transmettre les paroles entre Allah Subhanahu wa Ta'ala et ces personnes. Donc ce hadith prouve bien que chaque personne devra parler avec Allah subhanahu wa ta'ala à propos de ses actions. Dans un hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ibadi, Innama, ça c'est un hadith, ça c'est des hadiths qui sont, il faut méditer là-dessus. Le jour de Qiyamah, Allah Ta'ala fera ce i'lan à ses serviteurs, Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, thumma ufikum iyaha. Dieu, ô mes serviteurs, ce sont là vos actions. Lorsque chaque personne découvrira ses actions, dit voilà donc vos actions, hein, que j'ai comptées pour vous. C'est-à-dire par l'intermédiaire des anges, ces actions étaient énumérées, thumma ufikum iyaha, et je vous rétribue en fonction de ces actions. Et là, Allah Ta'ala dira à ces personnes, فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ. Celui qui trouve dans son livret des bonnes actions, qu'il remercie Allah. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسًا. Et celui qui trouve d'autres actions, c'est-à-dire des mauvaises actions, mais cette personne n'a fait de reproche qu'à elle-même. C'est-à-dire c'est par ses propres mains qu'elle s'est précipitée dans ses difficultés en faisant ses péchés. Maintenant, certains ulama sont d'avis que certaines personnes n'auront même pas, yani, elles n'auront même pas l'occasion de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car dans le hadith, le prophète sallam dit qu'il y a trois catégories de personnes, hein, auxquelles Allah ta'ala n'adressera pas la parole le jour de Qiyamah. On a dû entendre ça dans certains hadiths, ou alors dans certains versets du Coran, si on lit la traduction, que certaines personnes, Allah ta'ala ne les adressera même pas la parole à cause de certains péchés qu'ils avaient faits, qui ont tellement déplu à Allah, qu'ils n'auront même pas l'honneur que Allah Ta'ala les adresse une parole. C'est-à-dire, si Allah parle avec ces gens, ils peuvent demander pardon, ou alors ils peuvent obtenir la rahmat d'Allah, mais certaines catégories de personnes, à cause de leurs actions, Allah Ta'ala ne les regardera même pas, ne les parlera même pas. Alors les ulama disent que, ben, comment concorder ces différentes versions, et disent que, il faut savoir que de l'au-delà, il y a plusieurs étapes. Déjà, on a vu qu'il y avait l'étape de la résurrection. Après l'étape de la résurrection, il y a l'étape du hisab, c'est-à-dire qu'on rend les comptes. Après l'étape du hisab, ou alors un peu avant l'étape du hisab, il y a l'étape où chaque personne reçoit les livrets de comptes. Après le hisab, il y a l'étape du mizan, la balance. Après l'étape du mizan, il y a l'étape du as-sirat, le pont qui mène soit vers le paradis, soit les personnes tombent dans le sirat al-afia et les personnes vont en enfer. Donc, dans les différentes étapes de la résurrection, il y aura différents cas de figure. Donc il se peut que dans certaines étapes, Allah Ta'ala ne les adresse pas la parole, mais dans d'autres étapes, Allah Ta'ala parle à ces gens-là. Mais ce qui est retenu de la part des ulama, c'est que ces personnes ne bénéficieront d'aucune parole de rahma de la part d'Allah. Si Allah Ta'ala s'adressera à eux, ce sera pour les faire des reproches à propos de leur vie, à propos de leurs actions. Donc ce qu'il faut retenir, mis à part cette petite divergence d'opinion, qui n'a pas un réel intérêt, mais pourquoi on a préféré le dire, parce que si un jour on entend, parce qu'il y a beaucoup de versets de Coran qui disent que pour telle catégorie de personnes, la yukallimuhumullahu yawm al-qiyamati wala yuzakkihim wala hum adhabun alim, qu'Allah ne les parlera pas le jour de Qiyamah. Si on voit ça, et qu'on dit que oui, mais comment cela se fait-il qu'on a dit qu'Allah parlera avec chaque personne pour le hisab, comprenez qu'il y a différentes étapes de l'au-delà également. Si Allah s'adresse à eux, ce ne sera pas comme lorsqu'Allah parle à un musulman. Lorsqu'Allah parle avec un musulman, c'est avec rahma, avec bienfaisance, avec bénédiction, avec clémence, mais avec quelqu'un qui a désobéi à Allah, si Allah s'adresse à eux, ce sera pour les déshonorer ou pour les faire reconnaître leur péché. Donc ce qu'il faut retenir à nous, en tant qu'Ahlul Iman, Inch'Allah, c'est quoi? C'est qu'on doit se préparer pour ce moment où on devra parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette étape, personne n'y échappera. Il n'y a pas une personne qui échappera à cette étape que Allah ta'ala ne lui adressera pas la parole. Donc chacun, il doit se dire que ben, pour les actions que j'accomplis, bonnes, alhamdulillah, mais concernant les mauvaises, est-ce que dès maintenant, sur cette terre, de ce dunya, est-ce que je peux déjà préparer ma réponse auprès d'Allah? Mais ça, personne ne peut le faire. Personne ne peut dire que, par exemple, demain je me lève pas Fajr, je travaille à partir de 7h, donc je dors jusqu'à 6h30, je ferai Qaza ensuite. Et si cette personne se dit ça, cette personne seulement, elle s'imagine que je peux me permettre de rater Fajr, mais qu'elle prépare en même temps qu'elle fasse le niyat que demain je ne me lève pas, ou que par exemple ce soit il y a tel match de Ligue des Champions, il y a tel match, donc c'est pas grave, nous va lever l'heure que nous va lever, nous mettre pas réveil. Mais en même temps qu'elle se dit que je vais faire telle action, mais qu'elle se dise, elle prépare tout de suite que bon, ben le jour de Qiyamah, lorsqu'Allah me demandera pourquoi tu n'as pas fait Fajr mercredi 5 novembre le matin, ben déjà je dois préparer ma réponse. Et là vous allez vous rendre compte que personne n'est capable de préparer sa réponse. Personne n'est capable de discuter avec Allah ou de répondre ou d'argumenter devant le tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, on doit avoir ce yaqin intérieurement de notre cœur, et ce genre de principe, si on garde à l'esprit, ça restera un rempart entre nous et Shaitan. Pourquoi? Parce que si on a cet automatisme, ce réflexe, qu'à chaque fois je veux faire quelque chose de haram, ça arrive, hein? Vous êtes au supermarché, vous entendez une chanson que vous avez connue quand vous étiez jeune, d'accord? Peut-être pour certains, une chanson des années 50, je ne sais pas. Mais pour ceux qui sont un peu moins jeunes, un peu plus jeunes, une chanson qu'on connaît, ben on a envie d'écouter. On dit, ah, il fait longtemps pour qu'on entende ça. Ou alors, il y a quelqu'un, une femme qui passe, ben, on a envie de regarder. Vous voyez? Ben, quand on prend le... Parce qu'à chaque fois qu'on fait un péché, ce n'est pas accidentellement. C'est toujours réfléchi, c'est un péché. C'est-à-dire qu'on a le choix, on a la possibilité de choisir. Je le fais ou je ne le fais pas. Parce que le péché qui est fait sans faire exprès, c'est pardonné de toute façon. Rufi al ummati al khata wa al nisyan wa mastukrihu alayhim, je crois, ou comme a dit Rasoul Sallam, il y a trois catégories de péchés qui ne sont pas considérés comme iqab, comme péchés qui ne seront pas, il n'y aura pas de punition au jour de Qiyamah. C'est al nisyan, l'oubli, l'erreur, al khata, l'erreur, wa mastukrihu, et si un péché est fait par contrainte. Si on a vu accidentellement une personne, une femme qu'on n'avait pas le droit de regarder, ben ce regard est pardonné. On connaît le hadith qui dit que le premier regard est pardonné. Maintenant, on connaît ce qu'est le premier regard. Le premier regard, c'est le regard accidentel, voire fuétif. D'accord? Je ne sais pas pourquoi vous souriez. Moi, je n'avais pas l'intention de plaisanter là-dessus. Mais certains, ils disent que le premier regard est pardonné. C'est-à-dire, khalas, premier regard, il a tout vu là. La marque du chaussette, la marque du chaussure, la marque des vêtements, c'était un taille basse, ou alors c'était un chef de ville, ou alors c'était le décolleté, tout khalas. Vous avez fait scanner, vous avez fait le scanner complet. C'est pas ça le premier regard, wallah al-azim. Le premier regard, c'est quoi? C'est vous sortez de votre voiture, il y a une femme qui passe, qui traverse, vous voyez, et vous détournez votre regard. Ça, c'est pardonné. Mais comprenez bien, j'ai dit la philosophie d'Allah, le thème n'est pas correct, mais la hikmat d'Allah, la sagesse d'Allah. Il n'y a pas, on ne peut pas vivre avec une visière. Je ne peux pas me faire comme les chevaux, mais ça, là vraiment, là on mériterait le terme d'extrémisme, la khalas, là ok. Si quelqu'un il marche avec un affaire comme ça pour ne pas voir madame le chemin, et quelqu'un il va supermarché, il met des, comment on appelle ça? Des boulequettes, hein, des boulequettes. J'ai pensé, vous savez, une fois j'ai pensé, après, alhamdoulilah, ça m'a refroidi un peu, quand j'ai vu comment les gens ils vivent ici. Une fois je me suis dit qu'en lisant les hadiths sur la musique, les méfaits de la musique sur le cœur, même si vous n'écoutez pas, hein, parce qu'il y a, non, ça ne va pas sortir trop du sujet. Vous savez, le cerveau, là, il fonctionne à trois vitesses, à quatre vitesses. Il y a la conscience, ce que vous faites volontairement. Après, il y a l'inconscient, le préconscient et le subconscient. C'est pas moi qui dis, c'est cher Sigmund Freud, ça, un psychanalyste, d'accord? Il explique tout ça, vous savez? D'où les rêves. Parfois, vous voyez quelque chose, de la journée et vous rêvez le soir. Alors, si vous avez fait quelque chose, une seconde, où vous avez entendu parler de quelque chose et ça vous a touché intérieurement, le cerveau l'a enregistré et puis le soir, vous reproduisez ça dans votre rêve, vous rêvez et ça peut être un traumatisme ou quelque chose qui vous fait des cauchemars, etc., etc. Donc, lorsque j'ai lu certains passages sur la musique, les effets que ça a directement sur le cœur, sans qu'on s'en rende compte, il y avait une étude qui a été faite, et ça, on avait dans le programme de Saint-Pierre, mais on n'avait pas le temps, et j'ai pu aussi, j'ai donné à quelqu'un, un jeune, dans l'assemblée, dit voilà, faites passer, lisez vous-même, on n'a pas le temps de lire ça, une étude qui dit que, qu'on parle de ce qu'on appelle les messages subliminaux, parce qu'il y a ce qu'on appelle les messages subliminaux, et puis il y a les images subliminaux. C'est quoi image subliminaux? Un cas concret, hein? Dans un film, c'est quoi un film? C'est une succession d'images. Vous voyez? Elle dit, sur 1000 images, il y a une certaine quantité d'images qui est visible, mais pas perceptible. L'image se trouve présente à l'écran, mais vous ne le voyez pas, mais le cerveau l'enregistre. Il suffit qu'il vous montre une bouteille de coca, tous les 300 images, et que votre cerveau l'enregistre au moins 15 ou 20 fois dans le film, et que quand le film finit, vous avez envie de boire un coca tout d'un coup. Dans la publicité, ils utilisent les images subliminaux, ok? Maintenant, Maintenant qu'on parle des messages subliminaux, c'est quoi? C'est à travers les chansons, il y a des appareils qui peuvent, retravailler ces chansons dans un autre sens, et que vous entendez d'autres paroles. Et là, on n'a pas eu le temps de citer malheureusement, ça ne se trouve pas dans le Bayan, mais à l'origine, il y a dans ce que vous voulez dire, mais le nom, on ne va pas le dire ça ici, le nom de différents chanteurs, de différents groupes très connus. Hein, ce n'est pas que le hard rock qui est dangereux. Certains pensent que c'est le hard rock, le heavy metal, je ne sais pas quoi, c'est dangereux et tout. Non, il n'y a pas que ça. Même des chanteurs connus, hommes comme femmes, qui chantent jusqu'à maintenant, et qu'on entend peut-être en supermarché ou n'importe où, dans le bus ou ailleurs, même leurs chansons, c'est écrit, voilà qu'est-ce qui est dit de leurs chansons. Mais même s'il n'y a pas ça, allez, même si, on ne va pas dire que dans toutes les chansons, il y a un message subliminal. Au cas où, si quelqu'un dispose de l'appareil, il voit que telle chanson, il n'y a rien. Ça veut dire que c'est halal? Non, ça ne veut pas dire que c'est halal. Même s'il n'y a pas de message caché dans une musique, mais le rina, la chanson, comme le professeur m'a dit, yumbitu nifaqa fil qalb. Cette musique fait naître l'hypocrisie dans le cœur. Et lorsque le professeur dit fait naître, ça veut dire qu'on n'est pas actif dedans, on est passif. C'est-à-dire qu'inconsciemment, il y aura une montée de nifaq dans le cœur. Il y aura une montée d'hypocrisie dans le cœur sans qu'on s'en rende compte. Et le professeur utilise la métaphore kama yumbitu l'ma ou zara. Comme l'eau fait pousser la verdure, ok. De la même manière, la musique, lorsqu'on écoute la musique ou on entend la musique, il y a un effet direct sur le cœur. Une fois, il y avait, Hazrat Ibn Umar, il était avec son khadim qui s'appelait Nafi'. Nafi', c'était le khadim d'Ibn Umar et c'était un des plus grands rapporteurs de hadith de l'histoire de l'islam. On appelle ça As-Silsila Dahabiyya. Lorsque Nafi' rapporte d'Ibn Umar, etc. Donc c'est la chaîne de narration les plus solides. Nafi' dit que j'étais avec Ibn Umar et il a entendu une personne chanter avec, je ne sais pas si c'est un instrument ou quoi. Et Ibn Umar, il a mis les doigts dans les oreilles. Et il dit qu'il a expliqué à son khadim, Nafi', que voilà, le prophète sallam avait fait une fois la même chose. C'est pour ça qu'il fait la même chose. Mais comprenez que les sahaba, ils savaient que même s'il n'écoutait pas cette personne chanter, mais même le fait de l'entendre, cela fait un effet sur le cœur. Cela aura un effet sur le cœur. Lorsque moi j'ai lu le hadith, je me dis que maintenant, quand je vais faire mes courses, je vais mettre des boules qui est parce que ça aura un effet assurément. Et vous ne pouvez pas trouver un supermarché à La Réunion sans que, dans lequel il n'y a pas de musique. D'accord ? Donc, pour revenir un peu, on a perdu le fil. On disait, pourquoi on est arrivé jusqu'à la musique, subhanallah, voilà, pour dire que Allah Ta'ala n'attend pas de nous la perfection, ok, on n'a pas à marcher avec des boules-quies, ni à mettre des œillères sur nos yeux, c'est-à-dire que le péché qui est fait sans intention, Allah Ta'ala pardonne. Vous voyez quelqu'un que vous ne devriez pas voir, Allah Ta'ala pardonne. Mais c'est maintenant, lorsque on regarde une deuxième fois, ça, il y a le libre arbitre intervient. C'est quoi le libre arbitre? Je choisis. Je le fais ou je ne le fais pas. Je le fais. Maintenant, si j'ai la connaissance religieuse, je vais me dire que, ben voilà, si je fais ça, il y aura telle conséquence, tel péché. Si je ne le fais pas, Allah Ta'ala me donnera telle chose en compensation, car Allah Ta'ala, le Prophète me dit que man taraka shay'an lillahi 'awwadahu Allah khayran min. Celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah Ta'ala lui accorde quelque chose de mieux. D'accord? Donc, il a conscience de ça. Et maintenant, si la personne se décide vraiment de faire le péché, avec les yeux ou les oreilles ou autre chose, que tout de suite, elle se dise que bon, je le fais, mais en même temps, je prépare ma réponse pour Allah. Donc, de cette manière, je vous assure, si on a cet automatisme, je suis sûr que la personne s'arrêtera de faire ses péchés. Quand on avait expliqué aux jeunes à Saint-Pierre, cette fois, que lorsque vous prenez votre appareil, hein, votre MP3 ou autre chose, vous mettez sur play la musique. Comprenez que lorsque vous mettez sur play, il y a trois choses qui se produisent. Deux instantanément et un quelque temps après. Lorsque vous appuyez sur play, la musique commence. Mais également, l'ange du côté gauche, il commence. Lorsque votre doigt presse le bouton play et que la musique commence, l'ange également commence au travail. Comme vous appuyez sur play, lui aussi appuie sur play. Que voilà, depuis 20 heures, cette personne fait tel haram jusqu'à 21h, 21h30. Donc on soit conscient de ça également. Et conscient aussi qu'il y a un groupe d'anges qui se relaient du matin au soir et qui nous observent et qui rapportent à Allah subhanahu wa ta'ala dans quel état ils nous ont trouvés. Dans un état de bonne action ou de mauvaise action. Allah, il sait mieux à l'avance. Et donc on se dit aussi que la troisième étape, c'est qu'en fin de journée ou le matin, Allah ta'ala, il aura le compte rendu exact de ce que j'ai fait et Allah, il sait déjà par l'intermédiaire de ses anges. Ça, c'est certaines petites qawaïd, certaines règles, certaines astuces que si on se met à l'esprit, à chaque fois qu'on fait un péché, bien assurément, peu à peu, on aura le dégoût des péchés. Vous voyez ? Donc, comprendre bien que chaque personne aura à parler à Allah Ta'ala à propos de ses actions. Maintenant, pour revenir au dernier point, comment Allah Subhanahu wa Ta'ala jugera les personnes. Donc, comme on a dit tout à l'heure, Allah Ta'ala fera connaître les actions aux gens par une science qu'elle mettra de leur cœur. Hein. Ils sauront quelles sont leurs actions à tel point qu'ils reconnaîtront le moindre de leurs péchés, le moindre des hasanat. Également, les ulama disent que, ça c'est Ibn Abbas, il dit que lorsqu'Allah Ta'ala ressuscitera les gens, chacun aura son livre de compte dans sa main. On avait expliqué que chacun pourra lire avec précision, il saura, de ses propres yeux, il verra quelles sont ses bonnes actions et quels sont ses péchés. Et puis, comme Allah Ta'ala parlera aux personnes également, Allah Ta'ala posera des questions aux gens à propos de leurs actions, donc nous aurons une connaissance complète de notre vie. Est-ce que cela a été orienté comme il le fallait ou comme il ne fallait pas? Et puis, il y a des personnes qui auront ce qu'on appelle yuhasabu hisab en yasira. Certaines personnes, ils auront un hisab très simple. Allah Ta'ala facilitera le hisab. D'autres personnes, oulaika lahum su'ul hisab, ils auront des comptes beaucoup plus difficiles à rendre auprès d'Allah. Certaines personnes, Allah Ta'ala les jugera en secret. Ça, on avait vu il y a un an et demi à peu près, que certaines personnes, Allah Ta'ala cachera le péché. Et d'autres personnes, Allah Ta'ala les donnera dès le départ de la résurrection un adab qui sera visible de tout le monde. Parmi ceux-là, certaines personnes, par exemple, ils seront dans l'obscurité. Par exemple, les personnes qui faisaient preuve d'oppression, qui étaient injustes envers les gens, ben, ce sera un motif de volumat, il y aura de l'ombre, il y aura de l'obscurité pour ces personnes le jour de Qiyam. Certaines personnes auront même un étendard. Je ne me trompe pas pour quelqu'un qui avait pris un morceau de terre injustement, etc., etc. Donc, pour certaines catégories de péchés, le iqab, la punition sera visible par tout le monde. Alors, maintenant, il reste autre chose, ça on va voir la prochaine fois, et ça c'est intéressant, comment les anbiya, alayhimu salatu wassalam, je ne dis pas qu'ils seront jugés, mais quelle est l'utilité du hisab pour les prophètes, alayhimu salatu wassalam. Parce qu'il faut savoir que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, si on retrouve le verset, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, que Allah Ta'ala demandera à chaque personne vers qui les prophètes avaient été envoyés, tout comme Allah Ta'ala interrogera chaque prophète. Alors on sait que les Anbiya ne faisaient pas de péché. Donc pourquoi eux aussi seront présentés auprès d'Allah le jour de Qiyamah? C'est clair, on a déjà peut-être entendu parler que c'est de un, Allah Ta'ala demandera aux prophètes, est-ce que vous avez propagé le din? Est-ce que vous avez fait votre travail de propagation? Et puis pour le prophète sallam, il y aura un autre rang par rapport aux autres prophètes, alayhi salatu wassalam. Mais là où on veut en venir, c'est avec un peu plus de précision, c'est certains prophètes, Allah Ta'ala les posera des questions précises le jour de Qiyamah, et ça, la prochaine fois, on réserve un programme spécial pour ça. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala demandera aux Anbiya, alayhi salatu wassalam, comme question, le jour du Qiyamah? Parce qu'il faut savoir qu'en ce jour, il y aura des prophètes qui seront là, il y aura trois catégories de musulmans. Ceux qui étaient dans le droit chemin, ceux qui étaient ce qu'on appelle muqtasid, c'est-à-dire, ils faisaient des bonnes actions, mais parfois ils faisaient des erreurs. Et puis ceux qui avaient un même quota d'erreurs, ils faisaient beaucoup de péchés, mais en même temps, parfois ils faisaient des bonnes actions. C'est-à-dire les trois catégories de personnes qui sont citées de le verset. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Dans ce verset, Allah Ta'ala explique qu'il y a trois catégories de musulmans, et ces trois catégories de musulmans seront présents au jour de Qiyamah avec les Anbiya et également les Kuffar et les Mushrikin. Chacun sera prêt, chaque personne aura à répondre, mais vous imaginez bien que le hisab, les questions posées à un prophète ne seront pas les mêmes questions posées à un musulman pieux et ne seront pas les mêmes questions posées à un musulman qui faisait en même temps des péchés. Donc chacun aura un traitement spécifique le jour du Qiyamah. Donc la prochaine fois, on va voir quelles seront les questions qui seront posées au prophète, au Anbiya alayhi salatu wassalam, le jour du Qiyamah. Et puis on va essayer peut-être de revoir un hadith qu'on avait cité une fois, qu'il y aura 70 000 personnes qui entreront au paradis sans rendre de compte. 70 000 personnes qui entreront au paradis sans rendre de compte. C'est un hadith connu comme le hadith Ukasha, de lequel Ukasha dit au prophète d'Allah, fais doigt que moi aussi je fais partie de ces gens-là. Et le prophète a fait doigt pour cette personne. Et il y a un petit masla, bon, on préfère le citer maintenant. Parmi ces personnes-là, Le Prophète avait dit qu'il y aura des personnes qui ne pratiquent ni la ruqya et certaines méthodes de traitement de maladies. Alors, la question a été posée concernant le fait d'aller voir une personne lorsqu'on est atteint de sihr, de sorcellerie ou autre chose. Hein, parce que la question a réellement été posée une fois, que le hadith dit que parmi les gens qui entreront donc au paradis sans rendre compte, une personne qui ne se fait pas soigner même par des lectures ou autre chose, quand quelqu'un est atteint de ce genre de problème. Alors, une personne demandait, est-ce que ça veut dire que si j'ai un problème de sorcellerie ou de nazar, comme on dit ici, Aïn, et que je vais voir quelqu'un qui va lire des versets sur moi, ça veut dire que j'ai fait une erreur? La réponse est non. C'est que si une personne a été atteinte, elle est en droit de se faire soigner. Elle est en droit de se faire soigner par une personne compétente et une personne qui ne fera pas appel à d'autres, qui ne fera pas usage d'autres méthodes similaires. Parce que parfois, pour soigner une personne, elle ne sait pas elle-même, elle utilise d'autres méthodes qui sont les mêmes que ceux utilisés par les sahibs, utilisés par les sorciers. Maintenant qu'une personne aille voir quelqu'un qui lit sur les Baqara ou Ayatul Kursi ou des versets du Coran sur elle qui souffre, ça, il n'y a aucun problème là-dedans. Ça ne veut pas dire que cette personne n'entrera pas au paradis sans rendre compte. Et le Sahib al-Kitab, la personne qui a écrit le livre, il explique que cela concerne une personne qui n'a pas été atteinte. Elle n'a aucun problème, mais quand même, elle veut porter un tawiz ou un truc pour se protéger. Il dit que ça, il ne faut pas. Ça, c'est un ra'is, hein. C'est l'opinion, ça. Hein. Il dit qu'une personne qui a été atteinte, elle a le droit de se faire soigner. Mais quelqu'un qui n'a rien, elle ne doit pas prendre, c'est-à-dire qu'elle lise les Ayatul Kursi, les Quls, les Aman al-Rasoulou, etc., matin et soir, pour elle, il n'y a pas de problème, sur elle, sur ses enfants, il n'y a pas de problème. Mais que cette personne porte quelque chose, un tawil pour se protéger, ou prendre de l'avant concernant ces choses-là, selon ce alim qui a écrit, lui, il dit que ça, c'est quelque chose de répréhensible. Mais, qu'on comprenne bien, et puis il dit parce que, bon, ce fitna n'est pas arrivé à la reine, alhamdoulilah, mais certaines personnes, hein, peut-être de l'endroit où la personne habitait, ils ont même dit que, ben voilà, même pour la maladie physique, la maladie cliniquement prouvée, ils disent que, ben voilà, on veut faire partie de ces gens qui entreront au paradis sans rendre compte, donc on va suivre les tests du hadith, on ne va pas se faire soigner. Donc, même s'ils sont malades, ils voient comme un signe de piété le fait de ne pas prendre de médicaments. Et là, il explique bien que non, le prophète n'a jamais agi de la sorte. Le prophète m'a dit que le shifa se trouve dans telle chose, il y a le miel, il y a Habbatus Sauda, le calonji, etc., etc. Donc, en aucun cas, il ne faut voir ça comme un signe de piété, que moi, je fais tawakkal ala Allah, maladie, pas maladie, si docteur dit qu'il faut opérer ou non, non, moi, je fais confiance en Allah, Allah donne la santé, Allah donne la maladie. Ça, c'est vraiment, bon, la personne peut voir ça comme un signe de piété, mais c'est khilaf sunnah. C'est contraire à la sunna et c'est même contraire à la logique humaine. Si quelqu'un est malade, elle se laisse mourir. C'est pas quelque chose à faire. Alors que par opposition, vous voyez que quand une personne va mourir de faim, si une personne est dans un désert par exemple, elle n'a rien à manger, elle va mourir de faim, ben elle est en droit de consommer du haram. S'il y a des biens qui appartiennent à quelqu'un, elle peut voler pour manger. Voilà, même s'il y a, na'ouzou billah, lahmoul khinzir, la viande du porc, là aussi elle peut manger juste la quantité suffisante pour ne pas mourir de faim. Vous voyez comment la vie est importante. On n'avait pas besoin de Jean-Paul Sartre ou de Albert Camus pour monter l'humanisme. Que la vie est au centre de toute chose. Nous, la valeur de la vie, notre Prophète nous l'avait enseigné depuis 1500 années. Que la vie d'un être humain, ça vaut plus que tout. Et comme le hadith que le Prophète dit que la zawal dunya, hein, que pour Allah Ta'ala, que ce dunya soit entièrement détruit, c'est moins grave qu'un musulman qui se fasse tuer, qu'on tue quelqu'un qui a l'iman. C'est plus grave que la destruction de tout ce dunya, qu'on comprenne le sens de la vie d'une personne. Donc c'était un petit masla qui n'est peut-être pas d'actualité, mais parfois on entend des discours à certaines personnes qui croient qu'ils ont trop yaqin en Allah, que lorsqu'ils sont malades, ils disent que nous on ne se soigne pas, parce que ceux qui ne prennent pas de traitement, ils vont entrer dans le paradis sans rendre compte. Mais comprenez que non. À travers la vie du Prophète Sam, son vécu et ses conseils prophétiques, il y a même des livres qui s'appellent médecine prophétique. Ce n'est pas pour rien s'il y a des livres de médecine prophétique. Un sahaba, il va pour Sam, dit au Prophète d'Allah, mon frère est malade, il souffre du ventre, le Prophète dit donne-lui du miel. Vous connaissez cette histoire, vous savez, 3 jours de suite, etc. Donc le Prophète Sam n'a jamais dit que reste sur ton musallah et fais doigt et Allah te donnera la santé. Non. C'est-à-dire, c'est un dîme réaliste. C'est pas qu'on vit dans les nuages, on a les pieds sur la terre, mais le cœur dans le ciel, on a confiance en Allah et on ne travaille pas, l'Ozi vient, etc. Là, on n'est pas de ce genre de religion. C'est une religion qui vous garde, pied à terre. Vous êtes en même temps dans une vie concrète, mais en même temps votre cœur est orienté vers Allah. Contrairement à celui qui n'a pas iman, pour lui, le bien et le mal, tout doit être vécu sur la terre. Vive au maximum, profitez des choses de la vie, parce qu'après il n'y a plus rien. Nous non. Yani, profitez des bons moments dans la limite du halal, et yani, et le ibadat, tirer du temps pour le dîn d'Allah, sacrifice pour Allah, avec la certitude qu'après il y aura une vie après la mort. Qu'Allah donne un tawfiq de comprendre ces quelques paroles, hein, et qu'Allah ta'ala fasse que s'il y a moins une chose qu'on retienne ce soir, c'est qu'il n'y a pas une personne parmi nous, même dans ce majlis de 25 personnes, il n'y a pas quelqu'un qui n'aura pas à se présenter auprès du tribunal d'Allah, le jour de Qiyamah, pour répondre. Et que, à chaque fois que Shaitan veut ou essaie de nous induire en erreur, hein, quand on est dans la rue ou devant sa télé ou sur internet ou je ne sais pas à l'école ou n'importe quel endroit, il nous induit en erreur pour faire un péché et que j'ai eu l'envie de le faire, je me suis décidé à le faire, je me dis ok, je le fais, mais tout de suite je prépare ma réponse pour le jour de Qiyamah, car Allah t'a dit Quran Ahsahullahu wa nasu. Nous on oublie les péchés, mais Allah n'a pas oublié. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.